L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM qui rouvre les bars. Très mauvais jeu de mots et faux espoir, pas de bistrot à l'horizon. Les bars en question, ce sont les poissons, poissons nobles et prisés, que notre invité étudie car il est chercheur, doctorant à l'IFREMER, avec qui on réalise une émission chaque premier mardi du mois en cette saison. Notre invité s'intéresse donc de très près à ces poissons. Il entre dans leurs cellules, il en étudie une partie, les mitochondries. Et il sera aussi question de changement climatique, car le changement climatique est partout ou presque. On n'a pas fini de s'en rendre compte. Et il va tout nous expliquer, bien sûr. Bonjour Jean-Baptiste Kemener.
Bonjour.
Alors un petit mot déjà de votre parcours scientifique. Vous êtes biologiste, mais encore
Oui, mais encore. Alors je suis, comme vous l'avez dit, doctorant en IFREMER. J'ai toujours été intéressé par la biologie. Et notamment par la cellule, puisque j'ai toujours trouvé ça intéressant de comprendre. Je vois la cellule comme un puzzle et j'ai toujours voulu essayer de comprendre quels étaient les mécanismes mis en œuvre au niveau cellulaire qui permettaient de comprendre comment un organisme, comme un être humain ou comme un animal, même comme un végétal, pouvait arriver justement à faire des réponses relativement complexe à l'échelle d'un individu.
Oui, parce que la cellule, c'est la base, c'est ça?
Oui, c'est ça. La cellule, c'est la base. Et un organisme, comme on connaît les animaux, végétaux et nous, nous sommes un ensemble de cellules. Et ça, les réponses entre les cellules vont caractériser et vont permettre à un individu d'être ce qu'il est.
Et la cellule existe depuis assez longtemps, finalement.
Ah oui, bien sûr.
Alors, tous les individus ne sont pas des cellules... Enfin... ont des cellules, c'est ça, mais les cellules sont un peu différentes. Certaines ont un noyau, d'autres pas.
Oui, bien sûr. Alors ça, c'est la différenciation entre ce qu'on appelle les cellules eucaryotes. Donc, c'est notre ensemble à nous, les humains, les animaux, les végétaux. Et après, on différencie du coup les cellules eucaryotes des bactéries et des archées. Et la cellule eucaryote a la faculté d'avoir un noyau et également d'avoir des mitochondries. Et il semblerait que la mitochondrie, donc c'est un organisme cellulaire, et il semblerait que cette mitochondrie résulte d'une symbiose entre une cellule eucaryote primaire et une potentielle bactérie.
Donc un jour, une bactérie aurait été utile à la cellule et elles auraient fusionné, en gros. C'est un peu ça, quoi.
Oui, il y aurait une interaction, en fait, comme c'est une symbiose, la cellule eucaryote apporte du bénéfice à la mitochondrie, et inversement, la mitochondrie apporte énormément de bénéfices à la cellule eucaryote. Et comme cette symbiose fonctionne bien, la plupart, voire même la quasi-totalité des cellules eucaryotes ont conservé cette interaction entre la mitochondrie et la cellule eucaryote.
Oui, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'étudier la cellule, en plus, c'est vaste. Donc, vous êtes spécialisé dans la mitochondrie, oui, on va y revenir. Donc, vous êtes tout de suite spécialisé dans la cellule. Vous n'êtes pas dit, je vais aller plus loin, je vais me spécialiser dans l'ADN. Non, vous êtes resté à cette échelle de la cellule, c'est ça, il y avait assez de boulot.
Oui. De par mon cursus, j'ai également étudié une partie de la génétique, etc. Mais je trouvais ça beaucoup plus intéressant d'observer l'échelle cellulaire. Puisqu'il y a le côté génétique qui est très important, mais il y a également le côté réponse à l'environnement qui, elle, ne va pas forcément dépendre de la génétique, mais qui va répondre en fait de la plasticité des cellules, c'est-à-dire la capacité d'une cellule à répondre à un stress environnemental sans pour autant avoir besoin de changements au niveau génétique.
D'accord, on va y revenir aussi. Et juste question, tous les êtres vivants ont une cellule, c'est ça la définition en gros ou pas?
Au niveau du monde eucaryote, oui, c'est ça.
Ah oui.
C'est au niveau du monde eucaryote, donc le monde eucaryote, c'est les animaux, les végétaux et nous-mêmes. Et donc, une cellule eucaryote, c'est une cellule avec un noyau. Et on retrouve également dans la quasi-totalité, ce qu'il y a, juste quelques exceptions où il n'y a pas de mitochondries. Et donc, dans la quasi-totalité des cellules eucaryotes, on retrouve des mitochondries. et donc dans la quasi-totalité de notre monde vivant, donc l'œil du monde qu'on peut voir à l'œil nu, on retrouve des mitochondries au sein de leurs cellules.
Et j'ai juste une question parenthèse, mais je ne peux pas résister. Est-ce que les virus ont des mitochondries ?
Non,
voilà.
Les virus n'ont pas de mitochondries, du moins pas à ma connaissance.
Mais ils sont considérés comme êtres vivants ou pas, les virus ?
C'est une définition un peu particulière, puisqu'ils ne peuvent pas vivre tout seuls, parce que ce sont des parasites. Et donc, je ne sais pas si on peut vraiment les considérer comme des êtres vivants.
Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord, en fait, tout simplement.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un débat là-dessus.
Donc, eux n'ont pas de mitochondries, à votre connaissance, comme vous dites. Alors, les mitochondries, qu'est-ce que c'est exactement une mitochondrie aujourd'hui ? Parce que ça a évolué, on a cru le comprendre.
Oui, bien sûr. Une mitochondrie aujourd'hui, donc ça va être un organisme cellulaire qui est indispensable à notre façon de vivre, puisqu'elle va produire plus de 90% des molécules énergétiques que l'on utilise que nos cellules utilisent et donc que nous utilisons pour notre vie de tous les jours. Ça va notamment, donc, la molécule énergétique, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate.
Ça, c'est le carburant, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est le carburant. Et la mitochondrie, on la voit aujourd'hui comme la centrale énergétique de la cellule. Et l'ATP qu'elle va produire, le carburant, va être utile pour la quasi-totalité des fonctions cellulaires.
Elle le produit à partir de quoi, alors, l'ATP ?
Elle va consommer des substrats dérivés de l'alimentation et de l'oxygène pour former cette molécule hautement énergétique. Et donc, on sait que la plupart des organismes respirent. On sait que nous, on consomme de l'oxygène et on rejette du CO2. On sait qu'on a besoin de s'alimenter pour avoir de l'énergie. Et en fait, ces deux caractéristiques d'un individu vont s'expliquer au niveau de la cellule, notamment au niveau de la mitochondrie, puisque c'est la mitochondrie qui va consommer de l'oxygène et relâcher du CO2 à travers un ensemble d'interactions que je ne vais pas développer ici.
Ouais, non, mais c'est elle le respirateur de la cellule, en fait, aussi. Quoi.
Et c'est elle qui va consommer les substrats dérivés de l'alimentation pour former cette molécule.
Extrêmement pratique, cette mitochondrie.
Exactement.
Et alors, elle fonctionne pareil chez tous les êtres vivants, qu'ils soient animaux, végétaux, champignons
Globalement, oui. Il y a bien sûr des nuances et quelques protéines qui peuvent varier, mais le fonctionnement de production d'énergie, production de cette molécule énergétique, est globalement le même au sein du monde du vivant.
Et elle ressemble à quoi, petit exercice radiophonique ?
Attention.
Alors, allez-y.
Si on peut prendre en termes d'image, elle va ressembler, entre guillemets, on peut la voir soit un peu comme une pomme de terre, soit comme un haricot rouge. Et au sein de cette forme, on va retrouver deux membranes, deux couches de membranes. Donc la première, ça va être par exemple notre...
Oui.
Merci.
Non, je ne sais pas.
Ça va être un petit sac.
Ouais.
Et à l'intérieur de ce petit sac, on va retrouver un second sac.
Ah d'accord, ok.
Et en fait, on va avoir des interactions entre ce qu'on appelle la matrice, donc c'est l'intérieur du petit sac.
D'accord.
Qui va interagir avec l'espace entre le petit sac et le grand sac.
Ok.
Ce qui va permettre en fait des réactions protéiques et l'activation de la chaîne respiratoire qui va consommer les substrats dérivés de l'alimentation et l'oxygène pour former l'ATP.
Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du petit sac, du plus petit sac ? Il y a rien ou
si, si, il y a, donc il y a énormément de protéines, etc. Il y a les substrats. Et on retrouve également la particularité de la mitochondrie, c'est l'ADN mitochondrial.
Alors, ouais, ça c'est important d'en parler, parce qu'en fait, les mitochondries ne sont transmises que par les femelles, c'est ça en gros
ça dépend des espèces, mais oui, pour l'être humain, c'est la maman qui va transmettre son ADN mitochondrial à ses descendants.
Donc c'est intéressant pour suivre des lignées, en fait, c'est ça ?
Oui, totalement.
Et pour dans le cas du poisson, enfin du bar, c'est pareil ? C'est seulement la femelle du bar qui transmet la mitochondrie ?
Alors, à ma connaissance, oui. Par contre, le papa a un rôle évidemment à jouer, parce qu'il faut savoir, la mitochondrie, c'est énormément de protéines. Et l'ADN mitochondrial ne va coder que pour certaines de ces protéines. Et donc, il y a énormément d'autres protéines qui ont un rôle fondamental et essentiel, qui vont provenir du noyau et donc qui vont provenir du papa et de la maman, du côté paternel et maternel. Et chez le bar, à ma connaissance, c'est également la femelle qui va transmettre l'ADN mitochondrial.
Alors, vous vous intéressez aux mitochondries, mais pour quelle raison ?
Eh bien, tout simplement puisque, comme je vous l'ai précisé, la mitochondrie va produire plus de 90% du pool énergétique de la cellule. Et donc, si les changements environnementaux ou n'importe quel autre stress perturbe cette production d'énergie, eh bien, ça peut avoir un impact considérable à l'échelle cellulaire, mais également à l'échelle de l'individu. Et donc, on s'intéresse à la mitochondrie pour vérifier et pour observer quel est l'impact de l'environnement sur son activité, et donc pour pouvoir par la suite essayer d'observer s'il y a des phénomènes d'acclimatation. Donc, c'est-à-dire, est-ce que la mitochondrie va avoir une réponse pour s'adapter à ces changements et de pouvoir par la suite essayer de potentiellement prédire quel individu va être en mesure de s'adapter facilement à un stress environnemental ou non.
Parce que c'est fragile, enfin, vous diriez que c'est fragile une mitochondrie, enfin, c'est très sensible à l'environnement ou c'est quand même finalement assez résistant? Évidemment, c'est une question un peu floue, mais...
Alors, je ne dirais pas que c'est sensible, mais je ne dirais pas que c'est fragile. C'est-à-dire que ça peut répondre très facilement à une variation environnementale, mais l'activité de la mitochondrie ne va pas être impactée à travers un petit stress.
Ouais, ça ne va pas dysfonctionner pour autant.
Non, c'est ça, exactement.
Ouais. Alors, qu'est-ce que vous constatez comme altération de la mitochondrie dans ce que vous observez ? Qu'est-ce qu'il y a, par exemple ?
Alors, moi, ce que je mesure, ça va être l'efficacité, ce qu'on appelle l'efficacité mitochondriale. Donc, ça veut dire que ça va être la quantité d'ATP, donc de molécules énergétiques.
De carburant.
Ouais, merci. Produit par molécule d'oxygène consommée. Et il y a...
Son rendement, si on veut.
Oui, c'est ça, c'est exactement
ouais,
ça.
D'accord.
C'est le rendement de la mitochondrie. Et on retrouve des différences interindividuelles qui sont extrêmement importantes, parce que ça peut être d'un facteur 2 à 3 entre les individus.
D'un bar à l'autre.
Oui, c'est ça, d'un bar à l'autre. Et l'idée, c'est de voir, est-ce que les individus qui ont les meilleures mitochondries, qui ont le meilleur rendement énergétique, vont également avoir les meilleures performances individuelles. Et comment ces performances vont varier par rapport à l'environnement, par rapport à un stress environnemental.
Donc vous mesurez son rendement. Est-ce que vous regardez autre chose ? Enfin, je sais pas. Est-ce que sa durée de vie ? Je ne sais pas si on peut vraiment parler de durée de vie pour une mitochondrie.
Non. Par contre, on a observé. Enfin, on peut parler de durée de vie, bien entendu. Mais c'est, à ma connaissance, aujourd'hui, c'est compliqué, voire même impossible de le mesurer. Par contre, on va pouvoir observer si ces performances mitochondriales sont stables, sont conservées au cours du temps ou non. Et si, comme je vous le disais, elles sont influencées ou pas par l'environnement. Est-ce qu'un individu ou des individus qu'on conserve dans des conditions données pendant tant de temps, on va mesurer leur mitochondrie. Et est-ce que suite à un stress, leur activité mitochondriale va changer ou non ? Ça, on peut le mesurer.
Et une cellule, ça a une durée de vie standard ou ça dépend de des fonctions de...
Alors, ça dépend énormément du type cellulaire. Oui. Donc, on sait qu'on a différents organes, etc., à l'intérieur d'un individu. Et ces organes vont avoir des spécificités. Et donc, les cellules vont avoir une durée de vie prédéterminée par rapport à l'organe où elles sont. Et il y a également des spécificités au niveau mitochondrial entre les tissus d'un individu. Ce qui veut dire que si on veut mesurer une performance à l'échelle individuelle, par exemple la croissance, ou les performances de nage pour le poisson, il faut s'intéresser à un tissu qui semble être un bon prédicteur de cette performance. Typiquement, dans la performance de nage, on va mesurer le muscle rouge, puisque le muscle rouge est le tissu qui va permettre la nage des poissons. Et donc, si on essaie de trouver un lien entre les mitochondries du foie et le muscle rouge, et la performance de nage, il est possible qu'il y ait un lien, mais ce n'est pas un bon prédicteur puisque le foie n'intervient pas dans la nage du poisson.
Oui, ça sera moins direct, quoi.
Oui,
comme
c'est
lien.
Ça.
D'accord. Ok. Donc, vous vous concentrez sur notamment sur la nage ou vous étudiez d'autres mitochondries.
Là, au cours de ma thèse. J'ai pour ma première année, donc là je viens d'arriver en deuxième année, de commencer ma deuxième année, Et au cours de ma première année, j'ai analysé la croissance sur plusieurs mois et j'ai mesuré sur ces poissons trois fois leur activité mitochondriale. Et au cours de ma deuxième année, je vais m'intéresser notamment aux performances de nage.
Mmh. Et là, pour l'instant, alors, qu'est-ce que vous avez constaté ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en tout cas ?
Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la biopsie, donc pour mesurer les mitochondries, on fait une biopsie de muscle rouge. Et la biopsie en elle-même n'impacte pas la croissance du poisson. Ça, c'était important. Ça, c'est un point relativement important, puisque à ce jour, il est très difficile de mesurer les mitochondries puisque ça nécessite beaucoup de tissu. Et donc, généralement, on est obligé de sacrifier les animaux. Et là, à travers mon projet, on a réussi à mettre au point une méthode qui permet de mesurer l'efficacité mitochondriale sur très peu de tissu, ce qui va notamment nous permettre de suivre des individus au cours du temps. Et donc, on a remarqué que l'efficacité mitochondriale, donc l'activité mitochondriale, était stable sur trois mois. Ça veut dire que le poisson qui a eu la meilleure efficacité mitochondriale à la première mesure va également être le meilleur à la deuxième mesure et à la troisième mesure avec 1, 2 et 3 mois d'intervalle.
Donc on peut supposer que c'est génétique, quoi. Enfin que sa qualité de mitochondrie est génétique.
Il y a forcément une part génétique. Mm-hmm. Par contre, il ne faut pas non plus négliger le côté environnemental, dans le sens où on sait par exemple que le sport va influencer sur les performances mitochondriales. Et donc, il va forcément avoir un effet individuel qui n'est pas forcément que lié à l'ADN et donc à la génétique.
Alors vous faites faire du sport à vos barres pour comparer ?
Non, là je n'ai pas envisagé ce procédé. Par contre, dans des manips, dans des expériences à venir, on pourrait l'envisager, oui, effectivement.
Les poissons que vous suivez, vous les suivez, mais vous êtes quand même obligé de les garder dans votre labo. Vous ne pouvez pas les relâcher et puis les récupérer, non, espérer.
Non, par contre, si on arrive à prouver que l'efficacité mitochondriale est un bon prédicteur de certaines performances individuelles, on pourrait envisager par la suite, par exemple, d'aller sur un bateau, de pêcher notre poisson, de faire une biopsie, de relâcher notre poisson et de mesurer les mitochondries. Et à partir des données mitochondriales, dire bah, ce poisson-là, il a plus de chances dans les années à venir ou dans les mois à venir d'être le meilleur en termes de performance de nage, de croissance, etc. Mais il faut d'abord que j'analyse mes résultats et que je les publie pour pouvoir prédire à cela.
D'accord, ça sera après la thèse alors.
Oui, je pense.
Ok. Et alors là, donc pour l'instant, vous travaillez comment avec des poissons qui sont élevés directement par l'Ifremer, enfin qui sont nés à l'Ifremer, c'est ça
Ils sont pas nés à l'Ifremer, ceux-là. Par contre, ils sont nés dans un élevage aquacole. Et on les a depuis. Donc, ce sont des poissons juvéniles. Et on les a récupérés tout jeunes. Et là, ils avaient un an à la fin de mes manips.
Et vous avez travaillé sur combien d'individus
J'avais globalement, par expérience, donc pour la croissance et pour les performances de nage, j'ai 80 individus.
Ah oui, c'est ça.
Ouais.
Ça paraît beaucoup et en même temps, c'est peut-être pas tant que ça. Enfin, je sais pas, ça suffit quand même.
Ça peut paraître beaucoup, mais c'est essentiel d'avoir autant d'individus quand on s'intéresse, notamment justement à l'individu en lui-même et qu'on ne fait pas des moyennes, puisque entre les individus, on va retrouver énormément de variations. Et ce nombre, en fait, va permettre d'identifier les variations qui sont liées au hasard ou à facteurs aléatoires. Du phénomène de l'activité mitochondriale en elle-même.
Donc vous les logez dans un aquarium. Enfin, vous avez un aquarium, comment
non,
ça se passe?
On a plusieurs bassins.
D'accord. Et vous les attrapez avec une épuisette?
Oui, c'est ça. C'est exactement
okay.
ça.
Ouais, c'est pour visualiser un peu.
Ouais, ouais.
Et la biopsie, c'est quoi? C'est un prélèvement avec une seringue. Comment ça se passe?
C'est une sorte de biopsie. Enfin, c'est une sorte de seringue, pardon. Les poissons sont anesthésiés. On récupère les poissons avec l'épuisette, comme vous dites. On les anesthésie. Ensuite, on fait une petite incision sur le flanc du poisson et à l'aide d'un ponche à biopsie, donc c'est un outil qui est utilisé en médecine à l'hôpital, etc. C'est un petit, ça ressemble à un stylo en fait, sans lamine. Et au lieu de lamine, on a une sorte de filament de fer qui permet de couper un bout de tissu. Et on insère notre ponche à biopsie, on fait un mouvement de rotation, ce qui nous permet de récupérer une toute petite carotte de tissu.
C'est comme un forage.
C'est exactement ça. C'est exactement
d'accord. Ça, oui. Ouais, parce qu'il vous faut du tissu musculaire, là, en l'occurrence.
Pas forcément musculaire, mais pour ma condition, comme on essaie de... Enfin, on a gardé nos individus vivants au cours du temps. Il fallait que le prélèvement soit le moins invasif possible. Et le muscle rouge offre l'avantage d'être un tissu qui a une très forte densité mitochondriale, ce qui permet de mesurer l'efficacité mitochondriale sur très peu de tissus.
Ouais, c'est ça. Et vous n'avez pas besoin de prélever trop, quoi.
Ouais, c'est ça. Et donc, de minimiser l'effet du prélèvement sur le poisson.
Et donc, il faut le temps qu'il cicatrise pour que vous puissiez refaire un prélèvement.
Exactement, oui.
Donc, vous disiez, c'est trois fois. Enfin, c'était sur quelle période? C'était tous les trois mois, hein, c'est ça?
Non. Non, j'ai eu mon plus grand intervalle, c'était trois mois.
D'accord.
Et donc, entre mes prélèvements, j'avais un prélèvement. Entre deux prélèvements, j'ai eu un mois. Ensuite, entre le prélèvement 1 et le prélèvement 3, j'avais 3 mois. Et entre le prélèvement 2 et le prélèvement 3, j'avais 2 mois.
D'accord.
Ce qui fait que sur mes 3 prélèvements, j'ai un intervalle de temps de 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois.
Et après, c'est fini. Les 3 prélèvements, ça vous suffit ou est-ce que vous allez encore continuer
Moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais bien aimé continuer. Mais quand on travaille sur l'animal, on est obligé de passer par un comité d'éthique. Et le comité d'éthique a décrété que la biopsie était une procédure qu'on considère modérée. Et donc, on considère qu'un individu ne peut pas avoir plus de 3 procédures modérées au cours de sa vie. Et donc, on a dû, à la fin du 3e prélèvement, on a sacrifié nos poissons pour éviter... tout simplement leur impact, que ça impacte trop leur bien-être.
Ouais, ça, c'est... Ils ont servi la science, ils ont fini leur carrière.
Exactement.
D'accord. Et alors, on n'a pas évoqué la partie changement climatique. Oui. En quoi ça consiste, là, cette partie-là?
Alors moi, donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs aspects dans le changement climatique. Et moi, le paramètre que je vais principalement étudier, ça va être l'hypoxie. Donc, l'hypoxie, c'est la diminution du niveau d'oxygène dans un environnement. Et pourquoi je m'y intéresse? Tout simplement puisque si on diminue l'oxygène, on va forcément diminuer les capacités mitochondriales. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure.
Puisque ça respire.
Oui, la mitochondrie consomme de l'oxygène pour former de l'ATP.
Et le fait qu'il y ait moins d'oxygène, c'est un signe de réchauffement? Enfin, c'est lié au réchauffement des océans plutôt que d'ailleurs du climat vraiment? Enfin...
Oui, il y a deux notions. Il y a la notion globale à l'échelle de la Terre. Et la notion locale. À l'échelle globale, l'hypoxie est liée au réchauffement climatique, puisque le réchauffement climatique, en fait, va diminuer la solubilité de l'oxygène. Et donc, on estime qu'il y a 2% du niveau d'oxygène qui a été perdu lié au réchauffement climatique. Par contre, au niveau local, il y a tous les phénomènes d'eutrophisation qui sont liés, en fait, à une surprolifération de micro-algues qui vont en fait consommer tout l'oxygène d'un environnement. Et du coup, il n'y aura plus assez d'oxygène pour les individus sous ces micro-algues.
Mais quand vous étudiez l'hypoxie des barres, là vous prenez des barres en milieu naturel, alors du coup, pour voir s'il y a hypoxie ou pas, non?
Non, en fait, on peut faire l'hypoxie de manière artificielle en rajoutant un bullage d'azote dans notre bassin. Et ce bullage d'azote, en fait, va diminuer la pression, ce qui va diminuer le pourcentage d'oxygène pour nos individus.
Et alors, vous la constatez, cette hypoxie?
Alors, on constate l'hypoxie. Qu'est-ce que vous constatez? On constate l'hypoxie. Par contre, par rapport à l'effet sur les performances mitochondriales et sur la croissance, ça a été démontré que l'hypoxie avait un effet sur la croissance au long terme. Donc, ça diminuait les capacités, la croissance des individus. Au cours de ma manip, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps d'analyser ces paramètres. Donc, je ne pourrais pas vous en informer, parce que je ne suis pas au courant moi-même. Mais on estime que donc, j'ai suivi, au niveau de la manip croissance, j'ai suivi mes individus sur plusieurs mois et on a acclimaté ces individus à l'hypoxie le dernier mois. Et donc, on estime que sur un mois, il ne va pas y avoir d'influence sur la croissance. Par contre, que les mitochondries auront eu le temps de s'acclimater pour pallier justement à ce manque d'oxygène.
Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle si on veut.
Oui, c'est sûr.
D'accord, donc ça permettra pas... En fait, ça, vos manips vous permettront pas de détecter un changement climatique, mais plutôt de voir si le changement a un impact sur la santé des poissons. Et donc pour le bar, qui est, en fait, vous étudiez le bar parce que c'est un poisson noble et intéressant d'un point de vue économique. Et il y a d'autres raisons éventuellement ?
Alors, il y a toutes ces raisons, bien entendu. Ce qui fait que le bar est devenu un modèle à l'Ifremer. Et ce qui permet notamment pour nous à l'Ifremer, de connaître le cycle de vie du bar, de pouvoir justement maintenir des poissons dans les bassins en bonnes conditions. Et ce qui va nous permettre, nous, par la suite, justement, de faire des manips sur les changements environnementaux. Et c'est toutes ces conditions qui ont poussé l'Ifremer à maintenir ce modèle. Et toutes ces conditions qui, aujourd'hui, nous permettent, nous, de mesurer les conséquences des changements climatiques sur ces individus.
L'Ifremer qu'on retrouvera dans un mois sur un autre sujet. Merci Jean-Baptiste Kemener,
merci beaucoup.
Chercheur biologie à l'Ifremer.